って。Ce soir, une heure bleue avec l'immense cinéaste chinois Jia Zhangke, auteur de très nombreux films qui nous ont bouleversés. Je l'avais rencontré une première fois au printemps dernier au Festival de Cannes, car son film avait été sélectionné, puis à Paris, juste avant la sortie de ce nouveau film qui s'intitule « Les Éternels » et que vous pouvez voir en salle depuis hier. Donc, heure bleue avec Jia Zhangke. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique, et en musique en écho avec le dernier film de Jia Zhangke, qui s'ouvre avec cette chanson célèbre de YMCA, des Village People. Jia Zhangke, merci d'être avec nous à l'occasion de votre nouveau film, le 7e long métrage qui s'intitule Les Éternels. Nous venons d'écouter YMCA. Pourquoi ? Parce que c'est le début de votre nouveau film. L'action se déroule dans une boîte de nuit et toute une jeunesse chinoise un peu particulière est en train de danser au son de cette musique endiablée, comme si l'Occident avait définitivement pénétré en Chine. Est-ce vrai ou est-ce que c'est de la fiction ?
Il se trouve qu'au début du film, on se situe en 2001. Il y avait déjà Internet et il y avait bien sûr le disco. La musique étrangère était déjà beaucoup écoutée par des jeunes et quant à mes deux personnages, s'ils sont représentatifs d'une certaine société souterraine, marginale, ils sont avant tout des jeunes de cette époque.
Alors c'est votre 7e long métrage, vous êtes l'un des maîtres cinéastes au niveau international. Votre film se déploie dans 3 temporalités. Il reprend plusieurs des thématiques que vous avez déjà abordées dans des films précédents. Mais auparavant, j'avais une question plus personnelle. Quand avez-vous été au cinéma la première fois, quand vous étiez petit, et quelle place occupait le cinéma dans votre enfance, Jiazhangke?
Le premier film que j'ai vu, c'était bien sûr à une autre époque. Disons, pour simplifier, qu'il s'agissait d'un film dans lequel on se servait d'armes, il y avait des coups de fusil. Pour moi, c'était associé au mystère. Il y avait quelque chose d'extraordinaire, puisque dans mon quotidien, personne ne se servait d'armes. Il se trouve que dans ce film, le héros était un soldat de la 8e armée de route de l'époque. Il était à cheval. Il y avait le mouvement du cheval et il tirait des coups de fusil en permanence. L'impact que ça a eu sur moi est que, tout d'un coup, j'étais face au mouvement, face à la rapidité, et ça m'a marqué à vie.
Qui vous a emmené au cinéma la première fois et où ça se passait dans cette enfance? Est-ce que c'était dans votre province natale que vous filmez depuis le début, Jiazhangke?
C'est effectivement dans ma province natale. C'est mon père qui m'y avait emmené. Il travaillait dans une école et, comme très souvent en Chine, il y avait des projections organisées pour toute l'école. C'était le cas pour ce film-là. Il m'avait emmené avec lui et donc pour moi, c'était le souvenir d'une salle de cinéma avec beaucoup de monde. Quand je dis beaucoup de monde, ce sont des salles de 1000 personnes.
Qu'est-ce qui vous a déterminé à faire du cinéma originellement, Jiazhangke ?
Ma décision de faire du cinéma fut très tardive. J'avais 21 ans. À l'époque, je faisais des études d'art aux Beaux-Arts. Avant ça, j'étais un cinéphile. Il faut savoir qu'à l'époque, en dehors des salles de cinéma, il y avait surtout de petites salles dans lesquelles on pouvait voir des vidéos qui étaient rentrées clandestinement. C'est là que j'étais. Je ne regardais que des films de Hong Kong, et pendant environ 6 ans. Mais à 21 ans, c'est là que j'ai pris la décision de faire du cinéma, suite à une projection du film de Chen Kai-gai, Terre jaune.
Votre avant-dernier film, Par-delà les montagnes, appartenait à un genre cinématographique qu'on appelle le mélodrame dans le monde occidental. Ce dernier film, Les Éternels, appartient peut-être aussi à un film de genre qu'on peut appeler un polar sentimental. Est-ce que vous revendiquez d'être aussi un cinéaste de genre, Jiazhangke ?
Je dirais que je m'approche de certains films d'un certain genre cinématographique, et même de plusieurs genres d'ailleurs. Dans ce dernier film, le genre dont je m'approche, puisque les deux personnages principaux sont des jeunes issus d'une société marginale, est ce qu'on appelle en chinois tiangru. Il y a toute une culture cinématographique à Hong Kong au début des années 80, avec une grande production qui traite de ces sujets autour de ce qu'on appelle le milieu du tiangru. Si je devais me revendiquer d'un genre cinématographique particulier, ce serait celui-là. Mais cela concerne le début de mon film. Après, comme le destin de ces individus évolue, alors je passe d'un film de Tiang Ru à un film sur une femme qui appartient à ce milieu-là, pour ensuite arriver à un portrait de femme, tout simplement.
Why did you come to Australia?
My dad wanted to come.
每个人只能陪你走一段路。 迟早是要分开的。
Alors, un des thèmes principaux de ce film, Les Éternels, c'est l'amour. L'autre thème, c'est le temps. Un des troisièmes thèmes, c'est la transformation inéluctable de votre pays, la Chine, et la destruction des paysages traditionnels, l'industrialisation, le capitalisme sauvage. Il y a trois temporalités dans votre film, Jia Zhangke, Les Éternels. Et vous nous les montrez par des choses très rapides. Est-ce que le cinéma, c'est l'art de suspendre le temps, pour nous spectateurs, mais c'est aussi l'art de le maîtriser dans la construction scénaristique ?
Le temps, pour ce film, est au centre de tout. D'abord parce qu'il y a un arc temporel de 17 ans. Depuis mon film précédent, Au-delà des montagnes, c'était quelque chose qui m'importait énormément, et plus encore dans ce film. Je pense que mettre le temps au centre de mes films est important et fort pour moi, aussi parce que j'arrive à un certain âge. Et ce n'est plus comme quand j'étais jeune et où il y avait beaucoup de choses dont je n'étais pas conscient. Je ne me rendais pas compte de l'impact et du travail du temps sur l'individu. Maintenant, non seulement je m'en rends compte, mais je fais différents constats et puis j'ai l'impression qu'il n'y a qu'avec le temps qu'on comprend petit à petit de quoi le futur est fait. On a des réponses à beaucoup de choses, mais en même temps, on est un peu comme dans le regard de cet enfant au début du film, quand il dormait et qu'il ouvre les yeux. Pour moi, ça représente un peu ce que les adultes, avec le temps, et tout d'un coup, ouvrent les yeux sur plein de choses et obtiennent des réponses à leurs questionnements. Et l'avantage de pouvoir s'installer dans un temps suffisamment long, c'est que dans ces temps longs, il y a toujours des instants fulgurants, des instants précis qui sont d'une importance capitale et qui sont déterminants pour la vie des gens, pour leur destin. Ce sont des bouleversements importants. Par exemple, lorsqu'elle va se servir de son arme et tirer un coup de pistolet. Mais aussi quand elle est confrontée à ce mototaxi qui voulait faire l'amour avec elle. Tout d'un coup, on voit qu'à ce moment-là, peut-être, à la limite, on comprend qu'elle ne fait plus confiance à la nature humaine. Enfin, il y a quelque chose de cette gravité-là. Aussi, quand Bing va disparaître et partir à la fin du film. Tout à coup, nous voyons le personnage de Tao par le biais de cette caméra de surveillance et on se pose alors énormément de questions sur l'avenir, sur ce qu'elle sera.
Croyez-vous en l'éternité de l'amour, Jia Zhangke, parce que le personnage qu'interprète Qiao, votre personnage féminin principal, est interprété, je crois, par votre compagne et votre muse, qu'on a déjà vu dans plusieurs de vos films précédents, qui là occupe l'écran. Le titre de votre film, c'est Les Éternels. Elle, Kiao, elle va passer par des métamorphoses. Elle croit en l'éternité de l'amour. Elle pense que l'amour, c'est réciproque. Et elle va se confronter au regard masculin. Est-ce que, selon vous, il y a une manière différente d'envisager l'amour selon qu'on soit un homme ou une femme? Parce que c'est aussi un peu un des sujets principaux de votre dernier film.
Souvent, quand on fait appel, si on se positionne du point de vue chinois à cette notion de Jianru, c'est-à-dire ces personnages d'une société parallèle et souterraine, eh bien, c'est souvent pour le mettre en opposition à ce qui est du point de vue officiel, de tout ce qui n'est pas marginal et souterrain, et de ce côté absurde du fonctionnement de tous ces systèmes-là. En faisant un portrait, ça me permet de mettre en avant justement ce qu'il représente au contraire de cette société masculine et de tout ce que ça représente. C'est pourquoi j'ai choisi ces deux thèmes, à la fois le Tianru et la femme au centre de mon film. Ça m'a emmené dans une nouvelle réflexion personnelle très importante. Ce qui apparaît d'une évidence assez terrible, c'est de voir à quel point le monde masculin, les hommes, n'hésitent pas à mettre en avant les valeurs liées à l'argent, qui sont beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus pragmatiques, et à quel point les femmes, elles, attachent beaucoup plus d'importance à la partie intime, sentimentale, et à plus d'individualité.
Alors il y a un petit banquet à côté de nous, d'où les bruits d'applaudissements, mais je voulais parler de quelque chose qui est très impressionnant dans votre œuvre cinématographique, Jason Kay, et ce depuis le début, et très important dans ce dernier film, Les Éternels. C'est assez difficile à expliquer, mais en gros, c'est l'idée que vous avez manifestement, que vous nous transmettez dans votre cinéma, c'est que quand on est né quelque part, à l'endroit où on est né, à l'endroit où on a passé son enfance et son adolescence, ce lieu natal va influencer votre psychisme et votre rapport au monde. Et c'est un des thèmes principaux encore de ce film. Ça l'a été dans des précédents, mais là, c'est encore ce thème-là. Comment vous pouvez l'exprimer, ça ?
J'ai quitté ma terre natale à l'âge de 19 ans, donc un temps suffisamment long pour, au fur et à mesure que je grandissais, être imprégné au niveau de la langue de ma province, des coutumes, de tout un système de valeurs propres à cette région, d'une morale. Tout ça s'est imprégné et passé dans mon sang. Il n'y a aucune hésitation à ce niveau-là. Donc après, quand on quitte sa terre natale, quand on se met à voyager, quand on a une ouverture sur le monde, forcément, il y a des choses nouvelles auxquelles on est confronté. Certaines qu'on adopte, certaines qu'on rejette, et en tout cas, ce temps passé dans sa province natale nous a d'abord forgé et construit. Il nous a donné un système qui est le nôtre, des valeurs et autres. De la même façon, le personnage de Zhao Tao dans le film, quand elle commence à voyager, part dans sa ville natale. C'est aussi une ouverture avec énormément de choses nouvelles auxquelles elle se retrouve confrontée, et la façon dont elle doit se confronter à ces choses nouvelles. À elle de se confronter à ces nouvelles choses. Elle transporte avec elle ce système de valeurs dans lequel elle a été élevée.
Dernière question, Jason Kay. La dernière fois que je vous avais vu, c'était dans Par-delà les montagnes. Il s'est passé 3 ans. Depuis, beaucoup de choses ont changé pour vous. Vous avez construit un réseau de cinéma d'art et d'essai dans votre province natale. Vous avez construit aussi un festival de films international. Et vous êtes devenu député de votre propre province natale. Est-ce que tout cela est cohérent pour vous avec votre idée du cinéma? Avec l'idée de liberté, est-ce que vous n'allez pas passer votre temps à essayer de régler des problèmes plus politiciens et à délaisser l'art qui est le vôtre ?
Peu importe, tout ce que je fais en Chine, donc en tant que réalisateur de cinéma, en tant que fondateur d'un festival de cinéma ou maintenant aussi comme député à l'Assemblée nationale, pour moi, à chaque fois c'est une façon de m'exprimer par des moyens différents et donc exprimer tout ce qui m'importe et exprimer mes idées. Par rapport au fait que je suis député, ce n'est pas dans le sens d'avoir tout d'un coup un nouveau pouvoir que j'aborde cette fonction, mais dans le sens de pouvoir finalement avoir un certain contrôle sur ce qui se passe en tant qu'observateur, et d'avoir aussi un certain contrôle sur ce qui se fait sur le plan politique, et puis un espace d'expression de mes propres opinions.
Pouvez-vous nous parler de votre enfance, Jazanke ?
Ah, 童年，我是1970年出生的啊，大家都知道1970年。
Alors, pour parler de mon enfance, je suis né en 1970, au moment où la révolution culturelle n'était pas encore terminée. Disons qu'elle s'est terminée au moment où je commençais à pouvoir me souvenir de certaines choses. Je suis originaire d'une toute petite bourgade qui s'appelle Fenyang, située dans le nord-ouest de la Chine. C'est un petit district. Pour vous donner une idée de la taille, en vélo, nous pouvions aller d'un bout à l'autre de la ville en 10 minutes. En même temps, elle joue un peu le rôle de croisement dans toute la campagne de ce coin de la Chine. Parmi les souvenirs que j'ai de cette époque, il y en a deux qui m'ont vraiment marqué. Premièrement, c'est la pauvreté. À l'époque, il faut bien comprendre que la nourriture et les céréales étaient fournies par l'État et rationnées. Il y avait beaucoup de problèmes car on n'était pas assez alimenté et il y avait même beaucoup de famines à cette époque. Et ça, en même temps qu'être un enfant, c'était quelque chose. Sentir ce manque de nourriture et voir que les gens étaient affamés sont des choses qui m'ont beaucoup marqué. Et puis, l'autre souvenir de cette époque qui m'a marqué, c'est la violence. Il y avait beaucoup de violence à l'époque, puisque les jeunes étaient désœuvrés et sans travail. Cette période de la révolution culturelle était profondément marquée par la violence. Ce qui faisait qu'à l'époque, nous, enfants, on avait 6, 7 ans, et on passait notre temps à traîner dans la rue avec des jeunes plus âgés que nous. Des jeunes qui avaient déjà une vingtaine d'années. Et on a tout de suite compris comment les clans, les gangs pouvaient se former et de quoi était fait ce tissu relationnel fait de gens amenés à passer leur vie dans la rue. Finalement, c'est ce qui m'a amené à vouloir faire un film comme Les Éternels, qui traite de ce sujet de la violence et de ce qui relie ces groupes de gangsters. En chinois, on parle des gens qui sont à la marge. Et c'est un peu tous ces rapports entre frères jurés, ces rapports qui unissent ces gens-là, avec parfois des issues difficiles, beaucoup de bagarres, avec toujours un grand frère qui est là pour organiser les choses, et puis aussi un certain enfermement qui se dégage de ce type de vie. Dans le sens où on vit, oui, on vit en clos fermé. Et il n'y a pas vraiment de divertissement. Je me souviens que ce qui m'a marqué aussi, c'est que la ville dans laquelle j'habitais était sur le plan de l'esthétique des bâtiments. C'était encore des bâtiments qui dataient de l'époque des Ming. Au niveau des transports, il n'y avait que le vélo, donc tout ça pour dire qu'on ne pouvait pas aller très loin et que l'enfermement se situait aussi à ce niveau-là. Également, nous avions aussi très peu d'informations sur ce qui se passait à l'extérieur. Donc j'avais vraiment l'impression dans mes souvenirs de vivre dans l'ancien temps. Et puis le seul moyen pour avoir des informations de l'extérieur, c'était par le biais de la radio et du cinéma. Vraiment, la pauvreté à l'époque, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que j'ai du mal à oublier. Je me souviens, une année au moment du Nouvel An, pour essayer d'apporter un peu de mieux à ce Nouvel An, on pouvait acheter du tofu, et pour acheter ce tofu, il fallait bien sûr un ticket de rationnement. Ma mère m'avait envoyé chercher ce tofu, mais le ticket de rationnement n'était pas tout ce qu'il fallait. Il fallait faire la queue. Je me souviens avoir fait la queue longtemps, longtemps, et au moment où on arrivait à moi, on m'a annoncé qu'il n'y avait plus rien, que tout avait été vendu. J'ai eu un sentiment à ce moment-là d'échec, de déception immense, parce que je pensais que c'était une erreur de ma part et que j'avais fait une faute. Comment retourner à la maison comme ça? Ça m'a beaucoup marqué ce jour-là. Également, pour ce qui concerne la violence, je me souviens qu'en deuxième année d'école élémentaire, entre gamins, on se bagarrait beaucoup pour rien. La moindre petite chose déclenchait une bagarre. Et puis, entre deux cours, on était tous réunis dans la cour d'école à faire des exercices de gymnastique avec de la musique diffusée par des haut-parleurs, et je venais me battre avec un petit camarade pendant qu'on était dans la cour. Et la maman de ce petit camarade est arrivée. Elle a surgi dans la cour avec un fusil de chasse et me l'a pointé dessus. J'ai eu une peur monstre et je me suis enfui. Il se trouve que je suis redevenu ami avec ce petit camarade de classe. Et très peu de temps après, je me suis retrouvé chez lui avec sa mère et elle essayait de me faire, malgré les restrictions, de bonnes choses à manger. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà, tout était toujours dans les extrêmes. Quand je parlais de l'enfermement tout à l'heure, ça me fait penser au fait que mon père, qui était dans l'enseignement et qui faisait partie d'un groupe d'artistes non professionnels, à l'époque, on appelait ça les équipes de propagande de la pensée Mao, et tous les soirs, ils étaient amenés à se produire sur une scène de théâtre. Je me souviens qu'il m'emmenait avec lui et que j'avais pris l'habitude de m'endormir en coulisses pendant qu'ils faisaient leur spectacle. À la fin du spectacle, je percevais celui-ci de loin dans mon sommeil. Ensuite, il me ramenait sur son vélo à la maison. Donc, j'étais dans une sorte d'entre-deux entre l'espace de la scène et l'espace des coulisses. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles cet espace de la scène de théâtre est toujours présent dans mes films.
Yeah. 化作滚滚奔驰火塘，有泪有香，难以浮沉着悲喜煎熬，红飞明朝，转眼间谁人能记牢，知晓情似水无处可逃，走千山绕千道，直到天上万里云霞，人生路路迢迢，谁道自古英雄多寂寥，我一朝看透了一生清风挣多少，
c'est ce qu'on peut voir à l'intérieur de tous vos films, Jazanke, c'est cette porosité entre la fiction et la réalité, et cette scène que vous avez vécue enfant avec votre propre père sur un plateau de théâtre, vous la restituez dans un de vos films. Vous avez vécu les événements de Tiananmen quand vous étiez un tout jeune homme, comment les avez-vous ressentis? Et est-ce qu'ils ont été déterminants dans votre décision de devenir un artiste?
对，就是现在如果在中国你看这些孩子，就是更年轻的孩子上初中都父母要去学校接他们上学下学，那我对我来说，我没有上小学就已经基本上是在街上生活，因为父母根本没有时间管我们，然后就是汾阳的每一条街道每一个店铺都非常熟悉。
Ce qui m'a vraiment mis sur ce chemin, ce qui m'a influencé, c'est encore une fois cette période de l'enfance que j'ai passée, comme je le disais, avec mon père. Ou disons, à vivre dans la rue. Maintenant, quand on voit tous les parents qui vont à la sortie de l'école chercher leurs enfants, eh bien moi, je n'ai pas connu ça. On était tous complètement livrés à nous-mêmes. Par contre, on connaissait les moindres recoins de notre ville, toutes les rues, toutes les boutiques, les échoppes. Et je pense que ça a créé en moi un rapport à l'espace avec une perception de l'espace très particulière. Et surtout, les espaces publics comme les gares, par exemple. Il y a aussi qu'en Chine, les dentistes soignent directement dans la rue. Ils vous soignent vos dents comme ça, à vue, et pour moi, ce sont des souvenirs très frappants. Il y a aussi le fait qu'à cette époque, nous étions désœuvrés dans ces espaces. Finalement, je passais mon temps à percevoir ces espaces, à voyager, à observer, et oui, surtout à observer. Je passais beaucoup de temps à observer les gens dans les espaces différents, et si par exemple dans mon dernier film, Les Éternels, il s'ouvre sur une maison de thé en plein air où on écoute des chanteurs traditionnels, c'est parce que ce sont vraiment des endroits que j'affectionne particulièrement, car ils me permettent, par de longs plans séquences, d'inviter le spectateur à percevoir autant que moi, comme moi quand j'observais ces espaces, puis à les pénétrer, à capter le maximum de choses possibles. Et même si parfois, il n'y a pas nécessairement une histoire qui est racontée. Ces espaces ont pour moi une beauté incroyable. Et ce qui m'importe, c'est de pouvoir la partager avec le public et que le public puisse faire le même voyage que moi je fais. Par rapport à ce que j'ai vécu de la période des événements de Tiananmen en 1989, il se trouve qu'à cette époque, j'étais encore dans ma ville natale, donc loin de Pékin. Nous, les jeunes de l'époque, on était très intrigués et attentifs à ce qui se passait à Pékin. On avait les informations par le biais de la radio et des journaux. On essayait d'obtenir le maximum d'informations possibles. Pour nous, il était évident que tout tournait autour de la démocratie, de la liberté, de l'obtention de plus d'indépendance pour les individus. En tant que personne de 18-19 ans, c'est sûr que j'étais à ce moment-là à un tournant de ma vie. En tout cas, avant les événements, je me laissais porter par la vie, je ne me posais pas de questions, je ne savais pas de quoi serait faite la vie. Je n'avais pas de désir particulier. Je ne savais pas si j'allais poursuivre mes études à l'université ou pas. Et puis, c'est sûr qu'avec ces événements-là, ça m'a changé. Ça m'a fait mûrir très rapidement. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je puisse faire un travail au travers duquel j'allais pouvoir m'exprimer. Et un travail qui me permettrait de mieux comprendre la vie. Alors, j'ai commencé d'abord par m'exprimer par le biais de l'écriture de nouvelles, de romans, puis par la peinture. Et c'est seulement à 21 ans que j'ai décidé de passer au cinéma.
买票。嗯，我警车。嗯，这俩得撞了。嗯，这俩慢慢吧。怎么慢了？嗯，没听见过不？听见了。那样应该写的好一点，我蹦蹦的想，你看看嘛，原来那会儿，大部分都写好了，哎，这俩精效用。
Alors, on vous a découvert en Occident avec Xiao Wu, artisan pickpocket. Ça a été véritablement une révélation parce que tout ce que vous nous avez dit auparavant, Jazanke, sur l'espace public, sur la vie quotidienne dans la rue, nous occidentaux, on avait l'impression qu'avec votre caméra, vous nous faisiez rentrer dans l'univers de la vie quotidienne en Chine, et pas de la capitale, mais des villes de province. Et puis aussi, avec ce souci, je crois, peut-être anthropologique et économique que vous avez depuis Xiao Wu, mais aussi avec Plateforme, Still Life, 24 City, de témoigner de l'évolution de votre propre pays. À la fois par des destins individuels, mais aussi par le fait que des individus vont être obligés de vivre ce qui leur est imposé de l'extérieur, c'est-à-dire des contraintes économiques qui ne sont pas décidées par eux-mêmes. Comment est née cette idée de cinéma quasi anthropologique pour vous, Jazanke ?
Je suis 1993 实际上我自己也没有太清晰能够捕捉到我究竟想拍哪一类型电影。在我最初的这个电影的想象里面，也有很多
En fin de compte, je suis parti faire des études de cinéma en 1993 à l'Académie de cinéma de Pékin. À l'époque, j'avais accès au cinéma et j'ai vu beaucoup de films en tout genre. Et finalement, j'ai intégré un monde très riche en productions en tout genre. Par contre, savoir quel type de cinéma j'allais vouloir faire, ça ne s'est pas tout de suite imposé à moi. Je me souviens même avoir eu des envies de faire des films de type hollywoodien, avec une trame narrative très précise, des films de fiction très loin de la réalité du quotidien des gens. À l'époque, à l'Académie du film, on avait l'occasion de visionner deux films de fiction par semaine. Et au bout d'un moment, à force de voir ces films, je me suis rendu compte à quel point ils étaient déconnectés de la vie. Déconnecté de la réalité. J'avais vraiment l'impression qu'un mur avait été érigé entre la production cinématographique et le quotidien des gens. Donc en moi, quelque chose s'est réveillé comme une envie de rétablir ce déséquilibre. Et quel type de cinéma j'allais commencer à avoir envie de faire? C'était un cinéma s'inspirant de ce que je connaissais le mieux, c'est-à-dire cette vie dans cette petite bourgade du centre de la Chine. Cette vie était en même temps très représentative sur le plan de la société et de la vie quotidienne en Chine. J'ai commencé à réfléchir à des projets de films à partir de ce que je connaissais le mieux, à faire un cinéma très personnel. Quand je parle de cinéma personnel, il faut que j'explique un peu. Il faut rappeler qu'en Chine, à partir de 1949, toutes les productions cinématographiques étaient faites au sein de studios officiels, des studios gouvernementaux, et que finalement, tout l'aspect personnel de la création était effacé, gommé, et que cela laissait vraiment peu de place au ressenti de l'auteur. Ce qui était mis en avant, c'était un cinéma de propagande, mis au service de la révolution. Et des valeurs mises en avant par le gouvernement à un moment donné. Rien n'était issu du vécu personnel d'un auteur face à une réalité, et c'est aussi pour ça que j'ai tenu à ce que les personnages que je portais à l'écran soient le plus authentiques possible.
因为我的年龄，70年出生，然后到78年中国开始改革。Pour
quelqu'un qui est né en 1970, eh bien, en 1978, c'était le début de l'ouverture de la Chine sur le plan économique. Avec le début des années 80, il y a eu également une ouverture sur le plan de la pensée, sur le plan spirituel. Et il y a eu, jusqu'en 1989, beaucoup de mouvements politiques différents, qui ont tous eu leur influence sur les individus. Mais quand j'ai commencé à passer à la réalisation, à faire du cinéma, ces mouvements s'estompaient pour laisser place à des mouvements économiques et à une évolution fulgurante sur le plan de l'économie. Et puis, ce que j'observais, c'est que ces mouvements économiques avaient leur penchant et leur côté politique. Donc, c'était tous ces agencements, tous ces rapports entre les choses qui sont devenus des centres d'intérêt pour moi. Et surtout, ce que ça venait modifier au niveau des rapports entre les êtres humains. Toutes ces modifications, tous ces changements auxquels j'ai été confronté, que j'ai pu vivre, peuvent se voir dans mon film Les Éternels. J'ai voulu montrer que les jeunes qui vivent dans cette société d'humains, eh bien ces jeunes, je voulais montrer à quel point ils sont confrontés à ces mouvements et qu'en même temps, avec le temps, ce qui les préservait dans leurs organisations ancestrales, dans toutes ces sociétés secrètes, ces anciennes sociétés marginales et décalées de la société en Chine, eh bien, je voulais montrer combien ces sociétés marginales géraient leurs relations, mais qu'en même temps, c'était en train de disparaître. Avec tout ce que ça impliquait pour eux de danger. Ils étaient en fait confrontés à l'anéantissement d'un système.
Alors, en dehors de toutes les thématiques que vous avez évoquées, qui sont abordées dans ce film Les Éternels, vous avez pris votre muse, qui est aussi votre amoureuse et votre compagne, comme héroïne de votre propre film. Il y a aussi la puissance de la femme. Elle est confrontée à son amour, elle va vivre des épreuves et elle va s'apercevoir que l'homme dont elle pensait qu'elle était très proche va finalement l'abandonner. Et elle, elle va reconstruire son propre rapport à elle-même et à la société, alors que lui, finalement, va s'écrouler Est-ce que c'est un film que vous considérez féministe, Jazanke ?
我一开始在想拍这个电影的时候，因为我的工作方法一般我不会写故事大纲，我就像写一篇文章一样坐下来，逐渐的形成人物跟叙事。我一开始以为我会写一个男性的故事，结果后来越写越女性的角色越突出。
Je ne suis pas quelqu'un qui écrit et qui structure mon film à l'écrit de façon parfaite. Disons que j'ai l'impression de commencer à écrire mes films comme si j'écrivais un article. Et puis, il est vrai que quand je suis passé à l'écriture du scénario de ce film, j'avais plutôt en tête le fait d'écrire un film sur le monde masculin, et que ce soit un film vraiment très ancré dans un monde d'hommes. Et puis, la réalité a fait qu'au fur et à mesure de l'écriture du scénario, ça s'est transformé. L'histoire a tourné autour du personnage qu'incarne Zhao Tao. Le film en est venu de plus en plus à tourner autour de la problématique de la femme dans cette société. Il faut dire que ce personnage, on le suit sur 17 ans, à partir de 2001 et jusqu'à 2018. Et donc, on est confronté à toutes les transformations du pays, de la société et de l'incidence sur la façon de gérer les sentiments des individus. Pour moi, c'était un moment important, une œuvre importante qui m'aidait à rentrer dans une réflexion sur tout ce que j'avais vécu, comme une introspection, une réflexion profonde sur la vie. Ce qui en est ressorti, c'est beaucoup de points faibles chez les hommes, et à l'inverse, du côté des femmes, c'est la force qui les habite. Tout ça, c'était représentatif de la société. Bien sûr, nous sommes toujours dans une société où ce sont les hommes qui mènent les choses, ce sont eux qui sont reconnus. Mais finalement, à quoi ils passent leur temps ? Courir après l'argent. Alors que tout ce qui est du domaine un peu plus sensible et sentimental, ces rapports ayant pour but d'améliorer les relations humaines, eh bien finalement, ce sont des questions et des avancées que font les femmes.
Dernière question, Jazanke. Le jeune artiste, le jeune cinéaste dont le cinéma a été censuré dans son propre pays, la Chine, est devenu un cinéaste prolifique qui fait des films magnifiques, mais il est aussi devenu député de sa propre province, le Shaanxi. Vous avez fait un festival international dans votre province il y a quelques mois. Beaucoup de grands cinéastes sont venus du monde entier, y compris de France. Et la question que je voulais vous poser, êtes-vous devenu complètement assagi, embourgeoisé ? Est-ce que vous êtes encore un cinéaste engagé, malgré toutes ces fonctions officielles ?
En Chine, quand on est réalisateur de cinéma, on est confronté à un environnement qui soulève énormément de problèmes, avec une réalité très complexe et problématique. Rapidement, on a conscience du fait qu'il faut faire entendre sa voix et que, dans mon cas, parallèlement à mes réalisations cinématographiques, j'ai créé ce festival à Pingyao, qui est un festival international du film, où j'aide à la diffusion de courts-métrages sur diverses plateformes, sur Internet, et que j'aide aussi par la production des films de jeunes réalisateurs. Et puis, je suis aussi depuis quelque temps député. Mais pour moi, tout ça, c'est dans la continuité de mon travail entamé précédemment en tant que réalisateur. Parce que, encore une fois, c'est cette prise de parole qui est importante. Cette prise de parole, que ce soit en tant que député ou d'autres façons. Plus je pourrais m'exprimer, dans la mesure où on me donne cet espace, et plus je pourrais faire part de ma façon de voir les choses. Prendre la parole, c'est pour moi autant d'opportunités de faire changer et évoluer l'environnement global. Je dis souvent que peut-être, si ça se trouve, je ferai mieux mon travail de député que de cinéaste.
Yeah. 在心里。
来，兄弟们，五湖四海皆是你。
敢大想逃，
敢大想逃，
揍一个，
揍！
Ben merci. Dernière, ultime question. Combien vous avez de followers sur Twitter, Jazonke?
16
millions.
Ben, merci infiniment, Jazonke. Merci beaucoup. Et vive les éternels et l'éternité de l'amour. Merci beaucoup.
Thank you.
Et c'est avec Cléa Vincent et le titre « Nuit sans sommeil » que nous allons nous quitter. « Nuit sans sommeil » d'ailleurs, quand on voit et qu'on revoit les films de Jazonke. Merci à Pascal Veil-Guineau pour sa traduction et à Eric Oswald. Merci à Maxime Ingrand qui était à la technique ce soir. Merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Antoine Joubert qui ont préparé cette émission. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission.